avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
Et des pluies qui continuent de s'abattre en Bretagne et sur les côtes de la Manche avec des rafales allant de 80 à 90 km/h sur la pointe bretonne. Le temps est plus clément avec des éclaircies au sud et à l'est. Les températures sont de l'ordre de 4 à 6 degrés au nord-est, de 10 à 13 degrés au nord-ouest. Sous la perturbation, 12 à 13 degrés du côté du sud. Merci d'écouter France Info. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, l'actualité, c'est avec Mélanie Delaunay. Bonjour Mélanie.
Bonjour. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky doivent prendre la parole alors que le président ukrainien est à nouveau en déplacement à Paris. Ils ont échangé avec plusieurs dirigeants européens aujourd'hui, mais aussi avec l'émissaire américain, avec le négociateur ukrainien à propos du plan de paix de Donald Trump, l'émissaire américain, qui sera d'ailleurs à Moscou demain pour en discuter avec Vladimir Poutine. Et cela inquiète la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, craint que cela mette toute la pression sur l'Ukraine. Le chancelier allemand Friedrich Merz dit lui cet après-midi son opposition à toute paix dictée à l'Ukraine. Il y aura peu de répercussions dans les transports en commun demain lors de la journée de grève selon le ministère des Transports. Les TGV vont circuler normalement. Quelques perturbations sur les lignes intercités, les TER en Occitanie notamment ou le RERC en région parisienne. C'est un mouvement de grève à l'appel de la CGT, de la FSU et de Solidaires contre les coupes budgétaires. Il n'y a pas encore de compromis sur les projets de loi de finances, de l'État, de la sécurité sociale, mais des progrès, affirme le socialiste Olivier Faure après un entretien avec le Premier ministre Sébastien Lecornu qui multiplie les rendez-vous pour tenter de trouver un accord. Une audience cruciale après-demain pour l'avenir de Brandt. Le groupe d'électroménager en redressement judiciaire emploie 700 personnes en France. 300 postes pourraient être sauvés grâce à un projet de reprise sous forme de coopérative. Projet soutenu par l'État, c'est ce qu'annonce le ministre délégué à l'industrie Sébastien Martin en déplacement sur le site de Brandt à Saint-Jean-de-la-Ruelle près d'Orléans.
Moi je suis venu pour dire que l'État serait présent dans le projet de SCOP qui va être déposé, c'est-à-dire qu'on est prêt à mettre 5 millions d'euros pour accompagner ce projet, c'est pas rien. On a 24 heures pour trouver une solution. On a 24 heures pour convaincre notamment les banques que le projet est solide, que le projet est viable, mais surtout qu'il y a une histoire industrielle ici à Orléans et à Vendôme, autour de l'électroménager, de marques qui parlent à tous les Français et qui sont derrière moi, et que ces marques peuvent avoir un avenir si tout le monde y croit, si tout le monde se mobilise. Sur cette SCOP, aujourd'hui, il est évident qu'il y a deux hypothèses. Soit on pense qu'on va pouvoir garder tout le monde, mais il n'y a pas d'avenir. Soit on est prêt à accepter qu'il y ait un recentrage de la stratégie de l'entreprise, peut-être sur des produits un peu plus premium, et il y aura un peu plus de 300 salariés qui peuvent être sauvés dans cette opération de SCOP.
Ce projet de SCOP qui est soutenu par les élus locaux. Les ennuis volent toujours en escadrille et c'est le cas pour Airbus. Après avoir immobilisé des avions en raison d'un souci de logiciel de commande, l'avionneur européen confirme un autre problème sur ses A320, sur la qualité de panneaux métalliques fabriqués par un sous-traitant. Incident identifié et circonscrit, assure Airbus. Et puis c'est désormais acté, après des semaines de crise ouverte avec les auteurs, les éditeurs, le prochain festival international de la bande dessinée d'Angoulême est annulé. Les organisateurs l'annonce après une demande des financeurs publics de renoncer à cette édition 2026.
Merci Mélanie. L'actualité sur France Info signée Mélanie Delaunay. Dans un instant, la visite de Volodymyr Zelensky à Paris. Emmanuel Macron doit rappeler le soutien de la France à Kiev. On attend d'une minute à l'autre, peut-être vers 16h15, la conférence de presse entre les deux présidents. Invité de France Info dans un instant, Cédric Mas, historien militaire.
France Info. 15h-17h, Renaud Blanc.
Bonjour Cédric Mas.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Je le rappelle, vous êtes historien militaire. C'est cette conférence de presse, eh bien, on l'attend entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Elle prend du temps. Elle est beaucoup plus, j'allais dire, elle arrivera plus tard qu'on ne l'espérait. Ça signifie que chaque mot doit être pesé par les deux présidents, qu'il y a encore beaucoup de points pour à se mettre d'accord.
Oui, à la fois. Alors, l'accord entre eux, j'ai pas trop de doutes pour l'instant. En tout cas, on verra ce qui transpirera de l'après, des retours qu'on aura des autres participants de ces conversations. Mais c'est surtout chaque mot doit être posé à l'attention, parce que cette conférence de presse a pour objectif simple principal de rappeler le soutien européen et français, notamment à l'Ukraine, qui est prise dans des négociations entre la Russie et les États-Unis de Donald Trump. Donc, c'est à l'égard de ces personnes-là qu'il va falloir, en effet, peser le message, mais peut-être faut-il aussi faire œuvre de fermeté, et pour cela, bah, il faut avoir aussi des moyens. Donc peut-être de nouvelles annonces, voilà, on va voir, on est dans l'attente, on n'en sait pas plus.
Alors on sait que le chancelier allemand a déclaré il y a quelques minutes qu'il fallait refuser une paix dictée, ça sera la position des Européens, la position d'Emmanuel Macron, du chancelier allemand, mais aussi du Premier ministre britannique, pas de paix dictée, pas de capitulation en quelque sorte.
Alors, pour faire la paix, il faut que ça concerne les deux belligérants. Et une paix qui est négociée directement entre Washington et Moscou, et qui donc qui n'implique pas et qui ne tient pas compte de la position et des desiderata des Ukrainiens.
Cédric Masse.
On peut parler de paix dans ce cas-là. Oui, allô.
Oui, on vous a coupé, excusez-moi.
Voilà, ouais. Désolé. Non, mais il ne faut même pas parler de paix. Si une paix, c'est entre les deux belligérants. La paix entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ça ne sera pas une paix si les Ukrainiens ne sont pas partis au négociation et à l'accord final. Donc c'est surtout ce message-là qui est rappelé.
Alors justement, vous le disiez, le point culminant, c'est la Russie. La négociation est-elle possible avec le Kremlin qui affirme qu'elle peut continuer la guerre s'il le faut pour obtenir ce qu'elle veut? Un point semble particulièrement bloquant. La Russie veut que soit reconnue sa souveraineté sur les territoires ukrainiens qu'elle occupe et elle ne semble absolument pas disposée à négocier quoi que ce soit. Et pour s'en convaincre, eh bien, je vous propose d'écouter notre correspondant Sylvain Tronchet à Moscou.
Vu de Moscou, aujourd'hui, la cause est entendue. Les régions ukrainiennes de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia font partie de la Russie. Entrons dans une grande librairie de la capitale pour acheter une carte de la Russie. Elles ont les nouvelles frontières, précise tout de suite la vendeuse. Les cartes en vente en Russie aujourd'hui incluent les territoires occupés qui sont inscrits dans la constitution russe. Et quand on demande à des Russes dans la rue ce qu'ils pensent des négociations en cours et du statut de ces régions, voici le genre de réponse qu'on a.
Le Donbass doit rester russe, oui, il était russe et doit rester russe.
Depuis des mois, voire des années, même pour la Crimée, le pouvoir martèle que ces régions font partie de la Russie. Dans les écoles maternelles, on voit aujourd'hui des enfants colorier des cartes du pays avec les territoires ukrainiens. Et la semaine dernière, devant une assemblée de plusieurs centaines de jeunes, le réalisateur Nikita Mikhalkov, Lion d'or à Venise, oscarisé, Grand Prix à Cannes, devenu l'un des plus fervents supporters du régime, affirmait
« Сегодня... »
Aujourd'hui, dans le Donbass, se joue le destin de notre pays.
Les jeunes Russes l'entendent à longueur de journée. Les nouveaux manuels d'histoire de terminale expliquent que l'Ukraine est un pays artificiel. Une idée souvent développée par Vladimir Poutine et reprise là encore dans la rue par Ilya, la soixantaine.
J'ai vécu sous l'Union soviétique. Quand l'URSS existait, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, la Russie a été divisée en 15 républiques et elle est devenue faible. Et maintenant, tout le monde veut la détruire.
Vladimir Poutine l'a admis la semaine dernière lors d'une conférence de presse. La question de la reconnaissance des territoires occupés sera centrale lors de sa rencontre cette semaine avec les émissaires américains. Il sait qu'il n'obtiendra rien de l'Ukraine sur ce point. C'est une ligne rouge pour Kiev, mais il ne désespère pas de convaincre Washington. Mais quand bien même y parviendrait-il, la paix ne serait pas proche pour autant. Ni l'Ukraine, ni les Européens ne semblent pouvoir accepter cette exigence.
La correspondance à Moscou de Sylvain Tronchet pour France Info. Cédric Masse, je rappelle que vous êtes historien militaire. On sait qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont entretenus avec Steve Witkoff. Sylvain Tronchet en faisait d'ailleurs référence. Il sera demain à Moscou. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont pu se dire ?
Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en revanche, il faut rappeler quand même que M. Witkoff a déjà montré sa partialité absolue et son biais pro-russe. Et donc, il faut bien expliquer aux auditeurs que cette négociation entre d'une pseudo-paix se fait avec un arbitre qui est en réalité dans le camp des Russes. Et donc, d'ores et déjà, les États-Unis avec l'élection de Donald Trump ont basculé dans la sphère d'influence russe et ça se voit sur le terrain même, sur le front. Et donc, tous ces pourparlers-là, toutes ces gesticulations
ne risque d'être que la recherche d'un prétexte pour retirer encore plus de soutien américain militaire à la résistance courageuse des Ukrainiens face aux offensives répétées de l'armée russe qui joue son va-tout aussi à ce niveau-là.
C'est vrai que la Russie grignote du terrain. On dit que le mois de novembre a été assez très difficile même pour les Ukrainiens d'un point de vue militaire.
Ah, c'est évident. Cet été, il y avait vraiment un piétinement. L'offensive d'été russe sur Pokrovsk, qui était l'objectif principal, ainsi que Kupiansk, a échoué. Ils avaient réussi, à la fin du printemps, on se rappelle, à reprendre les territoires russes occupés par les Ukrainiens autour de Koursk. Et depuis, ils piétinaient. Et là, on sent que ça craque, tout simplement, parce que le soutien militaire américain n'est plus là. Et que l'Europe ne s'est toujours pas unie pour le remplacer, puisque le soutien militaire européen, qui est réel, n'est pas suffisant pour compenser le retrait progressif des Américains.
Mais vous avez le sentiment que l'Europe peut jouer un rôle dans ces négociations de paix où on est encore et toujours sur le côté ?
Alors, vous savez, le général de Gaulle disait comme une division, quand on lui parlait d'une puissance, par exemple le Pape, le Vatican ou autre. Eh bien voilà, l'Europe, c'est combien de divisions ? C'est-à-dire, tant qu'on aura des gens qui s'imaginent qu'on peut s'acheter une paix factice face à une menace réelle de la Russie en désarmant ou en refusant de réarmer, eh bien on ne pourra pas peser. Que ce soit Donald Trump ou Vladimir Poutine ne pense, et d'ailleurs la Chine ou d'autres puissances importantes dans le monde aujourd'hui ne pensent qu'en termes de pouvoir et de puissance militaire brute. Et là, aujourd'hui, eh bien, il faut que l'Europe, qui a tout à fait les capacités à la fois de réarmer et de peser très lourdement, surtout sur une zone qui la concerne au premier chef, l'Ukraine, c'est notre frontière orientale, quasiment, de l'Europe. Donc, je veux dire, on a tout à fait les moyens de le faire, mais il faut la volonté politique, volonté et l'unité. Et donc là, pour l'instant, on en a encore essentiellement à se mettre d'accord sur la prochaine réunion de la coalition des volontés, mais où sont les usines d'armement qui auraient dû être lancées dès 2023, où en est le projet de char de bataille franco-allemand, où en sont les différents projets et à quel prix nous sommes prêts à assurer notre défense, notamment pour couper notre vulnérabilité principale qui est aujourd'hui notre dépendance à l'industrie militaire américaine puisque justement beaucoup de pays européens dépendent encore trop des armes américaines pour pouvoir se défendre.
Cédric Mas, on parle de ces négociations comme si la paix serait signée dans quelques jours, mais est-ce qu'il peut y avoir finalement rien au bout de ces négociations ? On se souvient en août dernier de ce voyage de Poutine en Alaska, on annonçait la fin de la guerre, finalement il ne s'est rien passé. Est-ce qu'on peut se retrouver dans un cas de figure assez identique ?
Mais en réalité, c'est plus probable. C'est plus probable. Il ne peut pas y avoir de paix. Vous parlez de la ligne rouge, mais il y en a d'autres, des lignes rouges, des exigences russes. Une des lignes rouges, par exemple, c'est l'amnistie de tous les crimes de guerre, les viols, les déportations d'enfants, les exécutions sommaires et enlèvements de civils, les tortures sur des prisonniers civils ou militaires qui ont été commises par des officiers russes qui sont aujourd'hui décorés, qui sont honorés par le régime de Poutine, dont la nature criminelle n'est même plus à rappeler. Enfin, elle ne peut être niée que par des négationnistes. Donc, je veux dire, il est très fort probable, il est malheureusement très probable que toutes ces négociations et tout ce décorum et cette comédie, tragédie publique et médiatique ne servent qu'à donner un prétexte à la Maison-Blanche de retirer encore plus de soutien militaire à l'Ukraine et à sa résistance pour amener la Russie, en effet, à réaliser ce qu'elle annonce, c'est-à-dire qu'elle puisse occuper les territoires qu'elle vise militairement. Sachant que il faut bien comprendre d'ailleurs que même si Vladimir Poutine obtenait ce qu'il souhaitait en Ukraine, il ne s'arrêterait pas là. Il a d'ores et déjà annoncé le coup d'après. Donc je veux dire, aujourd'hui, on est dans une fuite en avant d'un régime qui est prêt à tout. Vous avez un article qui vient d'être publié dans la revue officielle du ministère des Affaires étrangères russe qui parle de brûler toute l'Europe jusqu'à la Manche, simplement pour garantir la défense et la sécurité de la Russie, car pour le régime de Poutine, et c'est une réalité pas pour la Russie, mais pour le régime de Poutine, la guerre, c'est son assurance vie. C'est-à-dire que sans guerre, s'il ne gagne pas et s'il est obligé de cesser ses agressions, il perdra le contrôle sur la société et donc il risquera très gros. Donc c'est une fuite en avant pour survivre et pour même continuer à s'enrichir, puisque les gens autour de Poutine s'enrichissent éhontément de ce conflit.
Alors Cédric Masson, on attend hein, d'une minute à l'autre cette conférence de presse très importante avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et Emmanuel Macron. Une question justement sur Volodymyr Zelensky. Il apparaît aujourd'hui fragilisé. Il y a eu des histoires, des scandales de corruption. Son bras droit a dû démissionner. Est-ce que pour vous, justement, alors que s'annoncent ces négociations très difficiles, est-ce qu'il est fragilisé? Est-ce que ça peut jouer dans ces négociations avec la Russie et les États-Unis?
Alors, en réalité, ça joue sur l'aspect de propagande, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a, en effet, des problématiques de corruption en Ukraine qui sont sans commune mesure avec celles du côté russe, évidemment, que l'on cache évidemment sous le tapis. Mais il y a aussi des problématiques plus globales de contestation de la conduite de la guerre. C'est-à-dire que le président Zelensky s'est révélé l'homme de la situation en 2022-2023, mais depuis, on a l'impression qu'il n'a plus de stratégie militaire globale et qu'il maintient au pouvoir des gens qui sont fortement contestés sur leur base. Je pense par exemple au général en chef ukrainien, le général Sirski, qui est très contesté par ses hommes. Yermak était aussi très contesté. Hein. Je vous rappelle que une partie des fonctionnaires qui ont enquêté sur ces affaires de corruption sont eux-mêmes emprisonnés aujourd'hui. Hein. Donc, il y a des problématiques de conduite de guerre, ce qui est tout à fait naturel. Vous ne pouvez pas avoir une guerre totale sur 4 années en conservant les mêmes à la tête des armées ou du pouvoir politique. Il y a nécessairement des besoins de renouvellement. Or, la constitution ukrainienne rend impossible des élections et donc un renouvellement politique normal tant que le pays est occupé, ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. Je ne sais pas comment ils pourraient organiser des élections aujourd'hui alors que leur pays est bombardé quotidiennement et que quotidiennement les missiles et les drones russes tuent des femmes et des enfants innocents dans les villes ukrainiennes loin du front. Mais donc c'est pas une question de fragilité en tant que telle. Le président Zelensky est encore fermement établi et même Yermak qui a démissionné a encore beaucoup de ses hommes au pouvoir dans les différents comités au gouvernement. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une problématique plus globale qui est qu'est-ce que la direction politique et militaire ukrainienne a à offrir au peuple et en réponse à cette volonté de résistance et de victoire. Quelle est la stratégie ukrainienne aujourd'hui?
Merci Cédric Masson. On va peut-être vous retrouver dans quelques minutes. Je me tourne vers Paul Barcelone, Paul du service politique de France Info. Vous étiez à l'Élysée. Emmanuel Macron joue gros aussi avec cette conférence de presse. On sait qu'il veut avoir le leadership européen sur cette question. Et il y a un voyage aussi très important qui se profile en Chine.
Oui, et le leadership européen dont vous parliez, Renaud, c'est aussi le sens des appels qu'il a eu en ce début d'après-midi. Vous faisiez référence avec Cédric Masson à l'instant à cet appel avec Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, qui est un proche du président américain, mais il y a aussi ces échanges avec plusieurs dirigeants européens, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Keir Starmer, le premier ministre britannique, avec qui Emmanuel Macron pilote, vous savez, la coalition des volontaires, ces pays qui sont d'accord pour envoyer des troupes en cas de cesser le feu, bien sûr, en Ukraine. Vous m'interrogez sur le fait qu'Emmanuel Macron joue gros. Oui, je donne deux aspects, la scène politique intérieure et la volonté de sensibiliser l'opinion, on l'a bien vu la semaine dernière avec le retour du service militaire volontaire, et puis diplomatiquement, parce que dès cette semaine, il s'envole pour la Chine, avec l'idée quand même de tenter de convaincre, la partie ne sera pas facile, mais de tenter de convaincre Xi Jinping d'influer sur Moscou, de peser sur Vladimir Poutine pour aller vers ce cessez-le-feu.
Justement, Cédric Mas, ce voyage en Chine d'Emmanuel Macron, il peut se passer quelque chose. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des Chinois. On sait qu'ils ont des liens assez clairs avec la Russie. Est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle? Et est-ce qu'Emmanuel Macron, ça fait beaucoup de questions, excusez-moi, mais est-ce qu'Emmanuel Macron peut essayer de convaincre Xi Jinping d'aider à la paix?
Alors, la réponse sera la même. C'est combien de divisions? Toute la difficulté, c'est qu'on a tellement désarmé, on a détruit l'outil militaire, hein, je pèse mes mots, français notamment et européen, qui fait qu'aujourd'hui, quand on va voir les Chinois pour leur demander de cesser de soutenir la Russie dans ce conflit, il faut bien préciser que depuis un an, la Chine soutient militairement la Russie dans son invasion de l'Ukraine à des niveaux jamais constatés jusque-là. Hein. C'est-à-dire que vraiment, sur le terrain aujourd'hui, les opérations militaires militaires russes sont sous perfusion de matériel, de composants électroniques, de câbles de fibre optique qui sont... Il y a même des usines russo-chinoises qui ont été construites de l'autre côté du fleuve de l'Amour, en Russie. Donc, ça, je veux dire, il y a... Depuis 6 mois ou 1 an, on a vraiment l'impression que Pékin a retiré un certain nombre de préventions qu'elle avait dans un soutien à une invasion. Voilà. Donc aujourd'hui, les Chinois aident la Russie à vaincre. Nous, nous aidons l'Ukraine simplement à survivre. C'est pas suffisant. Oui. Je veux dire, toutes ces questions, ce que l'on tourne depuis des mois, des années, elles seraient réglées très simplement si on donnait les moyens à l'Ukraine de vaincre la Russie. C'est tout. La seule option qui ne soit pas défavorable au monde, à l'avenir et au futur de nos enfants, c'est celle-là. Toutes les autres, ce sont des pis-aller, des demi-mesures qui ne résoudront rien et qui créeront dans l'avenir un défi encore plus grand que celui auquel nous devons faire face aujourd'hui et pour lequel, pour l'instant, nous ne répondons pas présent, hein, il faut le dire.
Merci Cédric Mas. Vous restez avec nous, hein, bien évidemment, parce qu'on a une grosse session sur cette question ukrainienne et on attend toujours cette conférence de presse. Vous restez avec nous sur France Info. Il est 16h20. Le Fil Info, c'est avec Mélanie Delaunay. Peu de perturbations demain dans les transports, Mélanie.
Ce sera normal pour les TGV, la plupart des trains intercités et des TER, avec des exceptions comme en Occitanie. Pas de conséquences non plus dans les aéroports, selon le ministre des Transports, pour cette journée intersyndicale pour les salaires et la justice sociale. Les négociations entre l'émissaire américain et Vladimir Poutine risquent de mettre toute la pression sur l'Ukraine, s'inquiète la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas. Aucune paix dictée dans le dos de l'Ukraine, c'est ce que rajoute le chancelier allemand après une réunion par téléphone avec Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, alors que le président ukrainien est à Paris. Il doit bientôt prendre la parole aux côtés d'Emmanuel Macron. À Saint-Étienne, les élus d'opposition estiment que la ville peut enfin tourner la page et salue la condamnation par la justice du maire Gaël Perdriau dans l'affaire du chantage à la vidéo intime contre un ancien premier adjoint. 4 ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité, peine applicable immédiatement, même si Gaël Perdriau fait appel. L'État est prêt à soutenir un projet de reprise de Brandt sous forme de SCOP à hauteur de 5 millions d'euros. Il reste 48 heures pour sauver une marque qui parle à tous les Français, dit le ministre délégué à la justice, à 2 jours d'une audience avec la possibilité de conserver 300 des 700 emplois en France du groupe industriel.
France Info. Et nous sommes toujours avec Cédric Mas, spécialiste, historien et spécialiste justement de l'armée, pour évoquer ces négociations, cette conférence de presse que l'on attend d'une minute à l'autre entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron à Paris. Cédric Mas, ce qui se passe aujourd'hui justement à l'Élysée, est-ce que, à votre avis, ça interpelle Donald Trump ou pas du tout ?
Alors je suis pas dans sa tête, et heureusement d'ailleurs, mais tout ce que je ne sais pas, et je sais pas s'il en a cure ou pas. Vous savez, aujourd'hui Donald Trump, c'est un peu difficile de trouver de la cohérence dans ses décisions et dans ses politiques, à part une tendance globale à réorienter complètement les actions géopolitiques américaines en faveur de la Russie. Donc, notamment. Et donc, de la Russie, d'Israël, etc. Enfin, d'un certain nombre d'alliés, soit traditionnels, soit de nouveaux alliés plus personnels, en tout cas, que pour son pays. Donc, c'est très difficile. Je ne sais pas s'il en tiendra compte ou pas. Vous savez, il a déjà montré qu'il était capable de la plus grande discourtoisie. Et puis, est-ce qu'il sait lui-même ce qu'il veut ? Voilà. Donc là, je ne suis pas spécialiste du tout et je suis. C'est très compliqué de prédire à l'avance ce que va décider Donald Trump, même si on voit globalement depuis le mois de janvier que la tendance n'est pas en faveur des Ukrainiens.
Mais il y a tout de même à l'intérieur du clan républicain, si je puis dire, une lutte d'influence. On parle de Steve Witkoff qui doit se rendre demain à Moscou et on sait que Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères américain en quelque sorte, lui, il est sur un autre positionnement, si je puis dire.
Oui, faut pas surinterpréter. On nous disait J.D. Vance aussi était sur un autre positionnement. On nous disait vous savez, concrètement aujourd'hui sur le terrain, on voit que le soutien militaire américain se réduit puisque ça reste les queues de livraison des engagements de l'époque de l'administration Biden en fait aujourd'hui. Il n'y a plus réellement d'engagement. Regardez un autre exemple. Il y a un peu plus d'un mois, Donald Trump avait annoncé des sanctions majeures contre les intérêts pétroliers russes. Et il avait donné un délai de 4 semaines. Il avait donné un délai de 4 semaines aux Chinois, aux Indiens notamment, pour s'y conformer avant que les sanctions soient étendues à des compagnies et à des acteurs économiques du marché pétrolier notamment, bien les Chinois. Au bout de 4 semaines, il ne s'est rien passé, tout simplement parce qu'entre-temps, il a sorti cette espèce de plan de paix, qui est en réalité une traduction d'une liste de desiderata russes. Donc voilà, et donc, bien comprendre beaucoup de show, hein, Donald Trump est un showman, hein, mais en réalité, sur le terrain, la situation se dégrade de manière structurelle et donc les Européens ne sont pas au rendez-vous pour prendre le relais. C'est ça le vrai sujet. Hein. On avait un an pour s'y préparer, on n'est toujours pas prêt. Voilà.
Donc ça signifie que ce que fait actuellement pour vous, hein, Cédric Mas, ce que fait Emmanuel Macron, c'est pas suffisant, les discours de Keir Starmer, les discours du chancelier allemand Merz, pour vous, c'est pas suffisant, il faut passer la vitesse supérieure.
Ça fait juste 4 ans qu'on le sait. On a raté plusieurs occasions de mettre fin au conflit par une victoire ukrainienne, c'est-à-dire ramener les troupes russes aux frontières reconnues internationalement de l'Ukraine. On n'a pas donné les moyens à l'Ukraine pour cela, et l'administration Biden est la première responsable de cette situation. Mais je suis toujours partagé, c'est-à-dire que c'est toujours mieux que rien. Il est évident qu'une autre majorité au pouvoir qui serait encore plus proche de la Russie aiderait encore moins, donc c'est toujours mieux que rien, mais c'est malheureusement pas suffisant. Je le répète depuis le début, quels moyens nous avons donné à l'Ukraine pour vaincre dans cette guerre et non pas simplement pour résister, voilà. Et même aujourd'hui, où sont les usines d'obus 255 qui avaient été annoncées? Il y avait une usine en Australie, finalement le projet n'a pas abouti. Vous voyez, typiquement, il y a un projet franco-australien. Où sont les annonces? Il y a des annonces avec des chiffres, et puis où sont les résultats sur le terrain? Quand vous discutez avec des Ukrainiens, ils le voient de moins en moins. Et ce qu'ils voient en revanche, c'est que leurs commandes en Chine sont bloquées, alors qu'en face, ils voient les mêmes produits qu'ils ont cherché à commander, eux, arriver dans des nombres beaucoup plus importants.
C'est la 10e visite à Paris de Volodymyr Zelensky. On sait qu'au début, ça a été compliqué justement entre Emmanuel Macron et le président ukrainien. On se souvient des mots d'Emmanuel Macron disant « il ne faut pas humilier la Russie ». Est-ce que vous estimez que côté français, on a perdu trop de temps ?
Alors, je mets à part les discours, vous avez bien compris, il y a tout un décorum et une espèce de comédie-tragédie là, et puis les actes. En réalité, oui, on a perdu du temps. Je le répète, on en a encore annoncé de nouvelles sanctions. Les sanctions qu'on annonce aujourd'hui, pourquoi ne les a-t-on pas prises dès le mois de février, dès le mois de mars? On est toujours dans la... On est toujours dans une situation... Typiquement, vous avez une logique qui est, il faut qu'on garde des stocks stratégiques pour nous défendre contre la Russie, si elle nous attaque directement. Mais si elle est vaincue par l'Ukraine, on en aura beaucoup moins besoin de ces stocks. Donc pourquoi est-ce que on ne livre pas plus d'éléments, sachant qu'on va les livrer, puisque je vous rappelle que on ne devait pas livrer de chars, on en a livré, enfin de chars sur roues, nous, c'est les blindés sur roues. On ne devait pas livrer de Mirage, on en a livré. On ne devait pas livrer de Rafale, il y a une lettre d'intention, on ne sait pas comment elle sera financée, qui a été signée. Donc je veux dire, toutes les lignes rouges qu'on s'était, toutes les contraintes qu'on s'était faites, ont juste été payées par du temps perdu et des vies perdues du côté ukrainien. Mais, il ne faut pas accabler nécessairement le président Macron, il a su prendre les bonnes à partir de l'invasion du 24 février, il a pris et il a tenu le cap, alors que autour, beaucoup de gens sont encore aujourd'hui dans une logique d'apaisement, une espèce de logique munichoise, dont on sait très bien historiquement qu'elle ne débouchera sur rien de bon.
Mais Paris, Berlin, Londres qui parlent d'une même voix, c'est important, même si ce n'est pas assez?
Alors oui, c'est important. C'est surtout Paris et Londres d'ailleurs, parce que Berlin a rattrapé un petit peu. Et puis, parler d'une même voix en proclamant sa volonté de soutenir l'Ukraine, mais se chamailler sur les projets de futurs chars de bataille. Je vous rappelle qu'on est vraiment dans une lutte très importante en ce moment même entre Paris et Berlin sur un projet militaire qui est très important et qui a une échéance de plus d'une dizaine d'années. Donc vous voyez, il y a les paroles et il y a les actes. Donc les paroles sont importantes, mais à un moment donné, elles ne sont pas suffisantes, surtout face à quelqu'un comme Vladimir Poutine.
Cédric Mas, en quelques secondes, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ?
C'est compliqué pour l'Ukraine. C'est très très compliqué pour l'Ukraine aujourd'hui. Mais je reste foncièrement convaincu que le droit et le juste triompheront, quoi qu'il arrive, même si cela prendra beaucoup plus de temps que prévu. Regardez ce qui s'est passé il y a un an en Syrie, en ce moment même. Nous fêtons les un an de la libération d'un peuple syrien, alors que tout le monde pensait que c'était terminé et que une des pires dictatures sur la planète allait se maintenir. Le régime de Poutine n'est pas éternel. Vladimir Poutine n'est pas immortel. Et donc, il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais pour l'instant, c'est sûr que nous n'avons pas notre destin en main et nous ne le reprenons toujours pas en main. Et ça, c'est vraiment regrettable.
Merci Cédric Mas. Je rappelle que vous êtes historien militaire. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Je vous propose justement d'écouter, et ça commence à l'instant, la conférence de presse du président français Emmanuel Macron.
Je suis très heureux d'accueillir à nouveau à Paris le président Zelensky.
Là, on est pour un moment.
15 jours, jour pour jour, après sa précédente visite, et à un moment qui pourrait être décisif pour l'avenir de la paix en Ukraine et de la sécurité en Europe. En ce jour symbolique, 34 ans, jour pour jour, après le référendum d'indépendance, où partout en Ukraine, la population a voté librement pour être indépendante, y compris dans les territoires que certains voudraient aujourd'hui contester. Je veux ici d'abord témoigner au président Zelensky, à travers lui à toute l'Ukraine, tout notre soutien après les nouvelles frappes qui ont visé le pays, martyrisé la ville de Kiev, et je voudrais ici redire nos condoléances. Et après ces dernières heures, la frappe qui a touché Dnipro, là aussi en faisant plusieurs victimes civiles. Ce bilan est lourd, insupportable, et il dit aussi combien la Russie signe et aggrave un peu chaque jour le forfait de son agression, en contredisant les lois les plus fondamentales de l'humanité et du droit international. Au moment où on parle de paix, la Russie continue de tuer et de détruire. C'est évidemment une insulte au droit et un obstacle à la paix. Je voudrais aussi dire au président Zelensky tout mon soutien après deux semaines qui ont été particulièrement denses et difficiles. Et c'est la raison pour laquelle il était important aujourd'hui que nous puissions nous retrouver. Après les discussions qui se sont tenues à Genève, les discussions qui se sont tenues ces derniers jours à Miami, et après la réunion que nous avons tenue de la coalition des volontaires, à laquelle a été associé pour la première fois à nos côtés le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Nous sommes dans une situation où les États-Unis ont pris un rôle de médiateur, et je salue le travail qui est conduit par l'équipe américaine sous l'autorité du président Trump. Les États-Unis d'Amérique, comme l'Ukraine, comme tous les Européens, veulent la paix. Et c'est l'objectif central des négociations qui se sont tenues ces dernières heures et ces dernières semaines. Mais il est clair pour nous tous que lorsqu'on parle de paix, chacun a son rôle à jouer. La Russie d'arrêter l'agression. Elle n'a donné aucun signal, aucune preuve en ce sens. L'Ukraine est la seule qui peut discuter de territoire. Ce sont les siens. Reconnue par le droit international, et elle est souveraine. Quand on parle de garantie de sécurité, elles ne peuvent être discutées ou négociées sans que les Ukrainiens, dont c'est le territoire, soient autour de la table, et sans que les Européens et l'ensemble des alliés de la coalition des volontaires soient autour de la table, puisqu'il s'agit des garants et puisqu'il s'agit aussi de la sécurité du territoire européen. Lorsqu'on parle des actifs russes gelés, les pays concernés et l'Union européenne doivent être autour de la table, car ils en ont seule compétence sur ce sujet. Et donc, il est important sur chacun de ces points que les compétences soient bien respectées. Pour ce qui nous concerne, nous continuerons d'avancer sur ce qui relève de nous. Nous avons donc finalisé le travail sur les garanties de sécurité, comme je l'évoquais, importantes pour la sécurité des Européens, des Français et des Ukrainiens. Les prochains jours donneront lieu à des discussions essentielles entre les responsables américains et la coalition des volontaires pour préciser la participation américaine à ces garanties, conformément à ce que nous avons décidé la semaine dernière. En parallèle, des discussions seront engagées pour que la Russie puisse donner toute clarté au médiateur américain dans ce contexte sur sa volonté de paix. Je ne doute pas que nous resterons tous unis aux côtés de l'Ukraine, du respect du droit international, de la paix et de la sécurité pour notre Europe. Je le redis ici aussi avec beaucoup de force, dans ce contexte, notre volonté, et je souligne la coordination très étroite que nous avons avec les Britanniques et les Allemands, est évidemment de bâtir une paix juste et durable pour les Ukrainiens, le jour d'après le cessez-le-feu, et pour l'ensemble des Européens. À ce titre, après les échanges que nous avons eus ensemble avec le président Zelensky, nous avons pu nous entretenir, à la fois avec les négociateurs sur place à Miami, mais aussi avec l'ensemble de nos partenaires européens, pour prévoir les prochains jours et les prochaines semaines et que tout le monde soit pleinement tenu au courant des avancées. Ce déplacement est également l'occasion, et je finirai là-dessus, pour la France de réaffirmer son soutien à l'Ukraine face aux tentatives d'effacer son identité. La saison culturelle qui s'ouvre aujourd'hui, en la présence de la première dame d'Ukraine, que je remercie, qui était à nos côtés et qui sera avec mon épouse ce soir pour l'ouverture de ces travaux, signe notre volonté d'œuvrer dans la durée ensemble pour cette culture ukrainienne et pour nos liens culturels. La première dame, Madame Zelenska, et mon épouse ont aussi été au Quai d'Orsay pour continuer l'engagement et le soutien international à l'initiative que vous avez lancée et que votre épouse a portée, Monsieur le Président, cher Volodymyr, celle en faveur des enfants déportés par la Russie. Ils sont plusieurs milliers et ce sujet demeure et demeurera jusqu'à la dernière seconde un point évidemment de mobilisation de tous. En tout cas, la rencontre d'aujourd'hui a permis de faire avancer la concertation entre tous les Européens, de coordonner aussi nos vues avec les négociateurs et de rappeler l'importance de la mobilisation de tous pour une paix juste et durable. Comme je l'évoquais, dans les prochains jours, il y aura des discussions entre la délégation américaine et une délégation russe. C'est à l'issue de celle-ci que une plus grande clarté sera faite sur la volonté ou non de la Russie d'avancer. Pour ce qui nous concerne, nous continuerons de soutenir tous les efforts de paix. Dans l'entretemps, nous continuerons de soutenir l'effort de résistance de l'Ukraine. Nous continuerons de sanctionner la Russie, car il en va de notre cohérence et il en va de notre sécurité. Je ne serai pas plus long, mais je vous remercie, Monsieur le Président, cher Volodymyr, d'être à nouveau à Paris. Vous savez tout notre soutien et toute notre amitié.
Emmanuel Macron, donc, qui rappelle que la Russie doit arrêter l'agression. Et après Emmanuel Macron, eh bien, les mots de Volodymyr Zelensky, qui poursuit cette conférence de presse.
Merci beaucoup pour nos relations amicales, pour le soutien de la France à l'Ukraine. J'apprécie hautement nos rencontres, notre coopération et ton soutien personnel. Je te remercie beaucoup. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais vous remercier également pour votre attention que vous apportez à l'Ukraine, à votre soutien inconditionnel qui continue à... puisque la guerre continue malheureusement et nous comptons sur ce soutien. Nous avons travaillé de manière profonde avec le président, avec cher Emmanuel. Je l'ai informé du travail de notre délégation. Emmanuel a donné son appréciation et j'apprécie beaucoup tous tes conseils. Je t'en remercie encore. Nous avons discuté avec les leaders européens. Le président vient d'en parler. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Pologne, le Danemark, la Finlande, le secrétaire général de l'ONU, la Commission européenne. Je remercie beaucoup pour cette discussion qui était très importante aujourd'hui. Je remercie également le président Trump pour son soutien, le travail de son équipe avec notre délégation, ensemble avec Emmanuel, nous avons discuté aujourd'hui avec nos délégations. On était en contact avec Rustem Umerov, le représentant ukrainien, et Steve Witkov, le président américain. Il y avait également Keir Starmer. Lors de cette discussion, et nous avons parlé des futures rencontres. On vit des jours particuliers aujourd'hui qui peuvent changer beaucoup tous les jours. Hier, il y a eu des pourparlers de la délégation ukrainienne aux États-Unis. Demain, le représentant du président américain se rendra en Russie. Nous essayons de terminer cette guerre de toutes nos forces. Et il faut terminer cette guerre de manière digne. Et si aujourd'hui, tout le monde travaille non seulement de manière active, mais aussi honnête pour la paix, pour garantir la sécurité, alors nous réussirons à faire ce qu'il faut pour l'Ukraine, pour l'Europe, mais aussi, je suis persuadée, pour l'Amérique et pour les intérêts à long terme du monde démocratique. Bien que parfois, il semble que chacun travaille de son côté, l'Amérique, l'Europe, mais nous travaillons tous de la même manière. Nous avons tous besoin de sécurité et du développement économique normal. Et c'est notre intérêt commun de vivre sans la guerre. La Russie doit mettre fin à cette guerre qu'elle a déclenchée et qu'elle continue. Ce n'est que sa guerre et c'est la Russie qui doit mettre un point final à cette agression. Nos actions communes y contribuent. Les priorités de l'Ukraine sont évidentes. C'est tout d'abord la protection et la garantie de sécurité, garantie de préservation de l'indépendance de l'Ukraine, la préservation de notre souveraineté. Nous allons le défendre. Nous travaillons pour garantir qu'il n'y aura pas de troisième agression de la Russie contre l'Ukraine et qu'il n'y aura pas que les pourparlers vont se poursuivre. La Russie, tant de fois, a déjà violé ses promesses, violé tous les accords qu'elle a signés. Et il est facile pour la Russie d'interrompre et de violer ses engagements. Donc il faut avoir des garanties solides de sécurité. Vous avez vu comment la guerre a changé en l'espace de ces 4 ans de l'invasion russe à grande échelle. Les drones, les missiles sont devenus plus nombreux et plus massifs. Les Russes frappent l'Ukraine tous les jours. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a eu une attaque violente contre notre ville de Dnipro. Malheureusement, il y a des victimes. Mes condoléances aux proches. Et il faut y mettre fin. Et le contrôle de sécurité est aussi une question importante qui doit être réglée. Je suis reconnaissant à la France et à tous nos partenaires qui, dans le cadre de la coalition de volontaires, préparent la sécurité réelle. Nous devons également garantir que la Russie elle-même n'ait l'impression qui puisse être perçue par elle comme une récompense pour cette guerre. La guerre ne doit pas être une affaire profitable pour que d'autres n'aient pas envie de la reproduire. C'est la raison pour laquelle nous avons des positions de principe quant aux sanctions et quant à la responsabilité pour les crimes de guerre, quant au statut juridique de nos territoires qui aujourd'hui sont occupés par les forces russes. Quant aux actifs russes, quant aux obligations de reconstruction, l'agresseur doit payer pour son forfait, pour l'agression. Plus unies seront les positions du monde, plus certain et longue sera la paix. Ça ne dépend pas que de l'Ukraine, ça dépend de notre position commune en Europe, de la position des États-Unis, d'Amérique. Il n'est pas question que de comment se terminera cette guerre, mais combien de temps de paix nous aurons. Le principe de soutien et notre position dans la préparation de l'accord, c'est la paix durable. Tous les partenaires doivent en être également conscients, comprendre tous les défis et tous les risques. Autre chose, en décembre, la France, et Emmanuel vient de le dire, commence une saison ukrainienne culturelle en France, ce qui souligne le poids de nos relations, l'importance de l'Ukraine pour l'ensemble de l'Europe. Les premières dames de l'Ukraine et de la France travaillent. Au nom de cela, je remercie toutes les universités françaises, 12 universités qui sont joints aux études ukrainiennes. Je remercie également tous les centres éducatifs et culturels français pour le soutien qui ont accepté et engagé les projets éducatifs et culturels ukrainiens. C'est important pour nous. La culture renforce toujours la politique et nous travaillons pour avoir des relations encore plus profondes et plus solides avec l'Ukraine. Et je suis persuadée que ce sera ainsi. Bien évidemment, nous avons discuté aujourd'hui, le sujet principal de nos discussions, c'est la fin de la guerre et le soutien de nos partenaires inconditionnels de la France, bien sûr, qui a été soulevé. Nous avons également parlé de nos relations bilatérales. Je remercie beaucoup pour ce dernier paquet de défense, qui est très important pour nous. Je te remercie beaucoup, Emmanuel, et toutes les institutions qui accélèrent ce processus. Nous avons discuté des avions, de la défense antiaérienne. C'est fait bien évidemment toujours partie de notre agenda. Nous avons parlé également un peu de nos relations économiques. Nous avons soulevé la question de reconnaissance des permis de conduire ukrainiens. Il y a beaucoup de questions qui sont travaillées et je remercie beaucoup pour ce soutien aussi vaste de votre pays à l'égard de nos concitoyens. Merci encore et gloire à l'Ukraine. Merci.
Voilà, gloire à l'Ukraine, les mots de Volodymyr Zelensky qui a parlé de protection, de garantie de la souveraineté ukrainienne et qui a ajouté que l'agresseur devait payer. Paul Barcelone est toujours avec nous du service politique de France Info. Paul, on va revenir avec vous justement sur les mots avant Volodymyr Zelensky, sur les mots d'Emmanuel Macron.
Absolument, le président de la République, Renaud, qui évoque cet après-midi un moment décisif, je le cite, pour l'avenir de la paix en Ukraine et la sécurité en Europe. Le président apporte très clairement son soutien personnel à Volodymyr Zelensky. Après deux semaines intenses et difficiles, dit-il, faisant évidemment référence à la fois à la situation politique d'un président ukrainien fragilisé après la démission de son bras droit, ancien chef de cabinet suite à une affaire de corruption, et la situation difficile sur le terrain. Emmanuel Macron a d'ailleurs plutôt des mots durs envers la Russie. La Russie doit arrêter l'agression, mais continue de tuer et de détruire. Elle n'a donné aucun signal en faveur de la paix. Voilà ce que dit Emmanuel Macron cet après-midi, qui promet d'ailleurs que la France va continuer de sanctionner la Russie. Mais le président français a tout de même du mal à cacher sa crainte de voir les Européens, c'est un des enjeux aussi de cette visite de Volodymyr Zelensky, crainte de voir les Européens relégués au second plan à la table des négociations qui se poursuivent entre Ukrainiens et Américains en ce moment à Miami en Floride. C'est pour éviter évidemment d'être pris de vitesse que le président Emmanuel Macron s'est entretenu cet après-midi en présence de Volodymyr Zelensky avec Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président Donald Trump, évoquant d'ailleurs Emmanuel Macron le rôle de négociateur des États-Unis dans la guerre en Ukraine. Ce même Steve Witkoff qui se rendra à Moscou dans les prochaines heures et sera reçu demain après-midi par Vladimir Poutine.
Alors Paul, il y a cette visite effectivement de Witkoff à Moscou et cette semaine il y a aussi le déplacement d'Emmanuel Macron en Chine. J'allais dire que la séquence n'est pas terminée pour le chef de l'État.
Oui, et on peut même remonter un peu en arrière en disant qu'elle s'est ouverte dès la semaine dernière en réalité avec cette volonté de sensibiliser l'opinion publique du côté du président français en annonçant le retour du service militaire volontaire sur le territoire national. Et puis effectivement, au plan diplomatique, Emmanuel Macron joue gros cette semaine. Cette visite annoncée ce week-end par l'Élysée de Volodymyr Zelensky à l'Élysée avec cette conférence de presse qui est toujours en cours. Les mots durs d'Emmanuel Macron contre la Russie et cette visite diplomatique en Chine. Dès mercredi, le chef de l'État ira tenter de convaincre son homologue chinois, le président chinois Xi Jinping, d'influer sur Vladimir Poutine, de peser sur le cours des événements, de peser sur Moscou pour avancer vers un cessez-le-feu. Le leitmotiv, véritablement, ces temps-ci d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas apparaître trop faible face à la Russie de Vladimir Poutine.
Bien sûr, nous reviendrons tout au long de la soirée sur cette conférence de presse de Volodymyr Zelensky, et d'Emmanuel Macron, 16h47 sur France Info.
France Info, 15h-17h.
Le fil info avec Virginie Lebrun. Virginie, la conférence de presse d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky.
Après un entretien à l'Elysée avec son homologue ukrainien sur les négociations de paix, Emmanuel Macron renouvelle son soutien à l'Ukraine. Au moment où on parle de paix, la Russie continue de tuer, de détruire. Moscou signe et aggrave un peu plus chaque jour le forfait de son agression, a déploré le président français qui a salué le rôle de médiateur des États-Unis. Emmanuel Macron qui rappelle ce soir que les garanties de sécurité ne peuvent être discutées ou négociées sans les Ukrainiens et sans les Européens. La France qui reçoit ce soir les remerciements du président ukrainien. Il faut terminer cette guerre de façon digne. Les Russes frappent l'Ukraine tous les jours, insiste Volodymyr Zelensky. Et nous devons faire en sorte que la Russie, Moscou, n'ait pas l'impression d'obtenir une récompense pour la guerre, ajoute le dirigeant ukrainien. Le reste de l'actualité, l'OMS ce soir recommande les médicaments GLP-1 pour lutter contre l'obésité. Cette gamme de médicaments que nous sous les noms d'Ozempic, Wegovy ou encore Mounjaro est efficace contre le surpoids et le diabète et pourrait aider le milliard de personnes qui souffrent d'obésité dans le monde, assure l'Organisation mondiale de la santé. L'appel à la grève demain devrait avoir peu d'impact sur les transports. Le ministère prévoit un trafic normal pour les TGV, quasi normal pour les intercités et TER. Peu de perturbations dans les aéroports. La CGT, FSU et Solidaire appellent à la grève contre l'austérité et pour les salaires en plein examen de budget 2026. Enfin, l'édition 2026 du Festival de la BD d'Angoulême, qui devait se tenir fin janvier, est officiellement annulée.
France Info. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida en France. 200 000 personnes vivent avec, selon Santé publique France. 200 000 personnes, dont Abel Guittard, un limougeux de 57 ans qui est infecté par le VIH depuis 1992 et qui est soigné depuis 1994. S'il reconnaît que le regard de la société a changé grâce à l'évolution des recherches sur la maladie, de nombreuses personnes ont toujours peur des malades et c'est pour ça, selon lui, qu'il faut en parler davantage.
Il y a énormément de chemin encore à faire depuis 94. Nous, on est des miraculeux. Merci à la vie de nous donner ce cadeau de vivre tous les jours grâce à l'avancée de ces traitements qui sont arrivés. Mais moi, quand j'ai été détecté, j'avais 2 ans à vivre. On n'avait pas plus d'espoir. Grâce à nous, patients, aux médecins, eh bien, on en est arrivé là. Mais la sérophobie existe toujours. Vous avez des gens qui en ont très peur encore aujourd'hui. Pour qu'il n'ait plus cette peur, je crois qu'il faut qu'on en parle beaucoup plus. Et encore, on en parle très, très rarement. Sauf à des dates pseudo-anniversaire, à des événements, des associations, les grandes associations que l'on connaît tous, ou nationales, SIDA Action, ou localement, Aide, on a parlé d'Empreinte, qui vont venir faire de la prévention, de l'information, mais ça touche une minorité. Il n'y a pas de grand panneau 4x3 dans la ville de Limoges pour dire « Tiens, aujourd'hui, venez prendre de l'information, venez vous informer, venez vous faire dépister ».
Le témoignage d'Abel Guittard, séropositif depuis 1992, au micro d'ICI Limousin. Bonjour Marc 19.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Vous êtes le directeur général de l'ONG AIDS. AIDS qui citait à l'instant la personne que l'on vient d'entendre. Les associations restent un élément clé dans cette lutte contre le sida, un élément clé pour l'information, pour le dépistage. Mais aujourd'hui, vous êtes obligé de fermer certains lieux, de vous séparer de collaborateurs faute de subventions, c'est bien cela ?
C'est cela, c'est une diminution des subventions, mais aussi, et ça concerne toutes les associations de lutte contre le sida, l'obligation d'augmenter les salaires liés au Ségur de la santé. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas du tout compensé par l'État. Et très concrètement, ça veut dire que nous, en 2025, du fait de cette obligation, on doit dégager 1 500 000 euros supplémentaires et il n'y a pas de compensation par l'État. Et c'est ça qui nous met en très grande difficulté, en plus de la baisse des subventions très importantes, notamment du ministère.
On rappelle, Marc 19, que AIDS a été créé en 1984. Quelle est la première association de lutte contre le sida en France et en Europe ? Aujourd'hui, vous employez combien de personnes ? Quel est votre budget ? Et de combien de personnes vous allez malheureusement devoir vous séparer ?
Alors aujourd'hui, on a un petit peu moins de 500 salariés dans AIDS, aussi bien des gens qui sont sur le terrain, des accompagnateurs, des accompagnatrices communautaires en santé, que des médecins. On doit supprimer une 60aine de postes. On espère qu'avec le plan de sauvegarde de l'emploi, ça ne sera pas autant de licenciements.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, très concrètement, vous ne pouvez pas aller au bout de toutes les missions que vous souhaitez.
C'est exactement ça. On a dû se résoudre à fermer plusieurs lieux, alors un peu dans le désordre, Lorient, Angers, Amiens par exemple, mais aussi on réduit la taille de certaines équipes, c'est vrai notamment à Marseille, et le grand problème c'est que non seulement ça réduit notre capacité à agir, à aller vers les personnes, on est une association communautaire en santé, ça veut dire aller au plus près des personnes. Ouais. Si on a moins de gens pour le faire, on peut moins aller les rejoindre, mais ça a aussi un effet de cascade, c'est-à-dire qu'on a des partenaires à Marseille qui agissent en partenariat avec nous et qui m'ont écrit, ils sont très alarmés de la diminution de nos moyens parce que eux aussi font l'objet de tensions financières très fortes et on pourra moins bien agir nous-mêmes, mais aussi en partenariat avec les autres partenaires.
Ça veut dire qu'il y a des publics, des communautés que vous allez moins voir ou ne plus voir ?
Alors ça veut dire qu'il y aura des communautés qu'on ne va plus voir là où on ne sera plus implanté, même s'il y a des partenaires qui pourront faire le travail mais qui ne le feront pas forcément de la même manière, et moins voir là où on sera toujours présent, mais où on n'aura pas autant de moyens pour faire autant de maraudes, autant d'actions en extérieur, parce que très concrètement, c'est ça l'action de lutte contre le sida en France aujourd'hui, c'est se déplacer en dehors de nos murs, aller au plus près des lieux de vie des personnes, alors ça peut être dans des squats, puis ça peut être sur des lieux des quartiers très éloignés des centres, pour atteindre des publics qui sont souvent relativement éloignés des soins.
Marc 19, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ONG AIDS. Vous avez dit « ça craque de tous les côtés ». Qu'est-ce que vous vouliez exactement nous dire ?
Je donne un exemple. À Bordeaux, il y a une association historique qui s'appelle le GAPS, qui a vu ses financements disparaître l'année dernière. Et donc, elle a dû fermer ses portes. Elle suivait plusieurs centaines de personnes vivant avec le VIH. Donc, ces personnes ont pu être réorientées pour certaines, mais elles viennent massivement vers les locaux de AIDS à Bordeaux. Mais nous n'avons pas les moyens matériels humains pour accueillir toutes ces personnes-là. Donc vous voyez que d'un côté, c'est une association qui disparaît, les personnes viennent vers nous, mais nous, on n'a pas les moyens suffisants. De l'autre, c'est nous à Marseille qui devons réduire un peu la voilure, mais ça met en difficulté nos partenaires. Et c'est cet effet-là de cascade, en fait, qui arrive partout. Alors même qu'on a tous les moyens disponibles, on a des tests de dépistage rapide qui sont très efficaces, on a la prophylaxie pré-exposition qui est très efficace, qui permet aux gens très exposés de ne pas se contaminer. Donc on a tous les moyens disponibles, mais on ne va pas pouvoir les mettre en œuvre. C'est un petit peu comme si vous aviez des médicaments dans la main, mais que vous ne pouviez pas les donner à la personne qui en a besoin.
Vous êtes en lien donc avec le ministère de la Santé, très concrètement, puisque vous avez un problème budgétaire qui vous empêche d'agir comme vous le souhaitez.
Oui, bien sûr, on a des échanges continus. Par exemple, on porte des centres de santé sexuelle à Marseille et Montpellier, dont la tarification, là encore, va être révisée et ça va nous mettre en difficulté, ça va limiter nos capacités à agir. Mais très concrètement, le budget du ministère de la Santé a été amputé de 20% l'année dernière. Et dans le budget, si un jour il est voté, ça va être la même chose de nouveau. C'est pour ça que je dis que ça craque de partout, parce que si le ministère de la Santé a décidé de nous couper 600 000 euros, c'est bien parce qu'il n'avait plus les moyens de mettre autant d'argent qu'il le souhaite dans les actions. Donc il y a une vraie question de choix budgétaire au niveau national.
Marc 19, une dernière question. Cette journée de lutte mondiale contre le sida, donc c'est aujourd'hui, est-ce qu'elle est nécessaire pour vous ? Est-ce qu'elle est indispensable ?
Alors elle est absolument indispensable parce que ça permet aussi de rappeler que l'épidémie elle est mondiale, que la France se désengage des financements du Fonds mondial. Ça permet aussi de rappeler ça, qu'il y a un rôle premier de la France au niveau mondial dans la lutte contre le sida depuis dès le début de l'épidémie. Et là, on est dans un fort recul. Et ça permet aussi, c'est ce que disait la personne dans l'interview, d'en parler, de le dire. Notre campagne cette année, c'est de dire de changer de regard sur le VIH. Et on met l'accent justement sur ce qui était dit, c'est qu'une personne séropositive sous traitement ne transmet pas le VIH. Il n'y a aucune raison d'avoir peur d'une personne qui vit avec le VIH. Et malheureusement, c'est encore très présent.
Merci Marc 19. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ONG AIDS. Tout de suite, l'Asie. Plus de 1000 morts dans 4 pays d'Asie du Sud après les inondations dévastatrices de ces derniers jours. Un bilan provisoire qui ne cesse d'augmenter. L'Indonésie est le pays le plus touché. Myriam Rochmassarin.
Oui, près de 600 personnes sont mortes dans cet archipel du Pacifique. L'île de Sumatra a été la plus affectée par la violente tempête tropicale de la semaine dernière. Désormais, la pluie a cessé, les eaux se sont retirées, mais le paysage est dévasté et les routes impraticables. Des navires militaires et des équipes de secours ont été dépêchés à la recherche d'environ 500 disparus. Au Sri Lanka, près de 350 personnes sont mortes après le passage du cyclone Ditwa. Le pays n'avait pas connu de tels dégâts. dégâts depuis le tsunami dévastateur de 2004. Et alors que les recherches des disparus se poursuivent dans des conditions difficiles, hier soir, un hélicoptère militaire s'est écrasé au nord de Colombo.
Myriam, des conséquences dramatiques qui posent la question de la gestion des catastrophes naturelles.
Oui, le Sri Lanka lui a décrété l'état d'urgence et a demandé une aide internationale. Mais ce n'est pas le cas de l'Indonésie. Malgré la pression de la société civile, le président indonésien, arrivé sur l'île de Sumatra aujourd'hui, refuse de déclarer l'état d'urgence pour le moment. Pourtant, l'Indonésie fait face à la catastrophe la plus meurtrière du pays depuis le tremblement de terre et le tsunami de 2018 sur l'île des Célèbes. Dans ce pays habitué donc à faire face aux catastrophes naturelles, la population dénonce la lourdeur administrative des autorités qui aujourd'hui ralentit la distribution de l'aide alimentaire. En Thaïlande, la colère de la population monte également. Le bilan dépasse les 150 morts. C'est l'une des inondations les plus graves du pays depuis 10 ans. Certes, des équipes de secours ont été envoyées sur place et le gouvernement thaïlandais promet une compensation d'environ 50 000 euros pour chaque foyer ayant perdu un membre de sa famille. Mais les Thaïlandais reprochent au gouvernement sa mauvaise gestion de la catastrophe et son manque d'anticipation, car à cette saison, le pays est habitué aux crues dues à la mousson. Et il est aujourd'hui prouvé qu'à cause du réchauffement climatique, elles sont de plus en plus soudaines et intenses. Face aux critiques, deux responsables locaux ont été suspendus pour manquement présumé.
Myriam Roch-Massarin pour France Info.
Alors, tu as trouvé du travail ?
Mieux, maman. Je vais créer mon entreprise. Un commerce de produits locaux et zéro déchet.
C'est super, mais c'est risqué quand même. Tu comptes le faire avec quel argent ?
Tout est sous contrôle avec Initiative France, un réseau associatif qui me prête de l'argent à taux zéro et m'offre l'accompagnement.
Et oui, les 200 associations du réseau Initiative France financent chaque année 3000 commerces qui font du bien à l'économie locale et à la planète. Elles sont à vos côtés pour tous vos projets d'entreprise. Rendez-vous sur initiative-france.fr.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
Stéphanie Fromentin.
La perturbation océanique déjà puissante sur les îles britanniques devrait nous impacter davantage entre mardi et mercredi. En attendant, elle gagne aujourd'hui la Normandie, les Pays de la Loire et les Hauts-de-France. Elle donne des pluies et du vent dans les terres de la Bretagne, de la Normandie et des Hauts-de-France, avec des rafales entre 50 et 70 km par heure. 80-90 sur le littoral, localement 100 km par heure sur les côtes bretonnes. Le ciel est aussi bien bâché, de l'embouchure de la Garonne à la frontière belge en passant par le bassin parisien. Des ondées ne sont pas exclues. Ce temps humide se dirige vers l'Alsace, le Val-de-Saône et la Lorraine, où la grisaille tenace pour la journée laissera passer de belles éclaircies, voire du soleil sur le quart sud-est,